Ce l'abbé Simoulin a bien montré comment les votats de tous les évêques n'avaient pas été respectés par les décrets de Vatican II. Eh bien, comment en est-on arrivé là? Je crois que c'est justement l'histoire des schémas préparatoires et des débats qui ont eu lieu au sein de la commission centrale préparatoire qui nous montre déjà comment ce petit noyau de cardinaux, d'évêques, une personne comme M. l'abbé Simoulin a nommé tout à l'heure, est arrivé à invertir le cours de la doctrine catholique qui était promulguée, préparée par les schémas préparatoires. Et je crois que pour mieux comprendre en introduction tout ce trésor qui a été dilapidé par le Concile, tout au début du Concile, il faut revenir à la lettre qu'écrivait Mgr Lefebvre après le Concile en 1966 au cardinal Ottaviani, qui avait envoyé une circulaire aux évêques pour leur demander l'état de l'Église dans leur diocèse, puisque les fruits du Concile n'étaient pas vraiment ce qui était attendu. Et voici ce que répondait Monseigneur. Cela se trouve dans son livre « J'accuse le Concile ». Le Concile s'apprêtait par les commissions préparatoires à proclamer la vérité face aux erreurs, afin de les faire disparaître pour longtemps du milieu de l'Église. C'eût été la fin du protestantisme et le commencement d'une ère nouvelle pour l'Église. Alors que le Concile se préparait à être une nuée lumineuse dans le monde d'aujourd'hui, si l'on avait utilisé les textes préconciliaires, dans lesquels on trouvait une profession solennelle de doctrine sûre, au regard des problèmes modernes, on peut et on doit affirmer que d'une manière à peu près générale, lorsque le Concile a innové, il a ébranlé la certitude de vérités enseignées par le magistère authentique de l'Église comme appartenant définitivement au trésor de la tradition. Qu'il s'agisse de la transmission de la juridiction des évêques, des deux sources de la révélation, de l'inspiration scripturaire, de la nécessité de la grâce pour la justification, de la nécessité du baptême catholique, de la vie de la grâce chez les hérétiques, schismatiques et païens, de la liberté religieuse, des fins dernières, etc. Sur ces points fondamentaux, la doctrine traditionnelle était claire et enseignée lumineusement dans les universités catholiques. Or, de nombreux textes du Concile sur ces vérités permettent désormais d'en douter. Alors la question est de savoir comment en est-on arrivé là? Et justement, l'examen de ces schémas permet de saisir une première réponse. Alors, venons-en tout d'abord dans un premier point sur les schémas préparatoires eux-mêmes, avec les débats au sein de la commission centrale préparatoire. Dans un deuxième temps, nous verrons la suite, l'entre-deux, entre la fin de la dernière session de la commission centrale préparatoire et le début du Concile pour terminer sur l'acte qui a été la répudiation de tous ces travaux préparatoires, l'acte du cardinal Liénard au 13 octobre 1962. Tout d'abord, une vue d'ensemble de ce qu'étaient les schémas, puisque c'est un travail énorme qui a été fait par les commissions conciliaires. Travail énorme fait par ces 10 commissions, plus 2 secrétariats, qui avaient abouti à plus de 70 schémas. Ces 70 schémas seront tout au long des sessions de la commission centrale préparatoire réduits à 20. Réduits à 20 simplement parce qu'une partie de ces 70 schémas étaient en fait des articles qui se regroupaient autour d'un même thème. Eh bien, de ces 20 schémas que la commission centrale préparatoire présentera au Concile, aux pères conciliaires, un seul sera accepté, celui sur la liturgie et pour cause, nous le verrons bien. Les schémas les plus importants que nous verrons aujourd'hui, ce sont les schémas, bien évidemment, de la commission théologique, de la commission doctrinale, puisque ces schémas regroupent, ou sont plutôt le résumé de tous les thèmes majeurs qui seront envisagés par la commission centrale préparatoire et qui seront répudiés par le Concile. Et si l'on essaie de voir en parallèle Deux des commissions, ou plutôt la commission théologique d'une part, dont le cardinal Ottaviani était le président, et le secrétariat pour l'unité des chrétiens, dont le cardinal Béat était président, eh bien nous pouvons déjà voir, de manière assez claire, que deux esprits sont en confrontation. Voyons de manière brève les schémas de la commission théologique. Il y avait tout d'abord le schéma de l'Église, il y avait ensuite le schéma des sources de la révélation, la tradition et la Sainte Écriture, mais la tradition expliquant la Sainte Écriture. Il y avait ensuite, comme troisième schéma, la garde fidèle du dépôt de la foi, puis venaient deux autres schémas que nous n'étudierons pas, qui concernaient l'ordre moral individuel et familial, ainsi que l'ordre moral social. Alors voyons en parallèle ces deux commissions. Par exemple, le schéma des Ecclesia contenait des points capitaux pour la doctrine traditionnelle, bien évidemment, puisqu'il examinait la nature de l'Église. La nature de l'Église et sa constitution hiérarchique, donc l'épiscopat, et la relation des évêques avec le Saint-Siège. Eh bien, que voyons-nous en parallèle, étudié par le secrétariat pour l'unité des chrétiens, la structure hiérarchique de l'Église, mais, bien évidemment, étudié d'une autre manière avec, en finalité, ce qui a été dit tout à l'heure, veuillez m'excuser, les mots m'échappent, la collégialité épiscopale. Dans le schéma des Ecclésias était également étudié le rang des laïcs dans l'Église, mais pour les mettre à leur place, bien évidemment. Que sera vu par le secrétariat pour l'unité des chrétiens ? Le sacerdoce de tous les fidèles et la condition des laïcs dans l'Église. Déjà l'inversion. Également, un autre point étudié par la commission du cardinal Béat dans le De Ecclesia, c'était l'œcuménisme, mais la doctrine catholique de l'œcuménisme, non pas l'œcuménisme catholique qui sera étudié par le cardinal Béat. Du reste, l'intitulé du sujet vu par le secrétariat était celui-ci. C'était le problème général de l'œcuménisme et son importance pour l'Église catholique, mais surtout en relation avec le Conseil mondial des Églises. Autre point très important étudié dans le De Ecclesia, c'était les relations Église-État, avec cette confrontation tragique qui a lieu à la fin des sessions préparatoires entre d'un côté le schéma du cardinal Béat, la tolérance religieuse, et de l'autre côté le schéma présenté par le cardinal Béat, la liberté religieuse. Si l'on va maintenant à ce deuxième schéma produit par la commission théologique, le schéma des sources de la révélation, on voit également l'opposition qui a cours. Dans ce schéma, la commission théologique étudiait les points traditionnels, l'inhérence scripturaire, l'inspiration scripturaire, la relation entre tradition et écriture. Qu'est-il étudié par le secrétariat, la parole de Dieu et son importance dans la liturgie et dans la vie de l'Église. C'est un autre point de vue. Dans le schéma sur la garde fidèle du dépôt, est étudié en particulier par la commission théologique le caractère sacrificiel de la messe, l'Eucharistie, mais le caractère sacrificiel de la messe. Eh bien, de manière plus évasive, le secrétariat étudiera les questions liturgiques, mais bien évidemment en rapport avec la commission de liturgie pour changer de fond en comble la liturgie. Voilà un aperçu très général de ces différents schémas que nous allons essayer d'étudier maintenant de manière plus particulière, en montrant bien comment, au sein de la commission conciliaire, il y a un noyau de cardinaux, d'évêques qui vraiment cherchent à détruire la théologie traditionnelle, cherchent à arracher de l'Église la théologie scolastique et la philosophie de saint Thomas d'Aquin pour la subvertir, bien évidemment. Et du reste, c'est une apostrophe fameuse que le cardinal Ottaviani a faite en réplique au cardinal Béat lors, justement, de la discussion sur la tolérance religieuse, pour montrer que tout cela était une question de doctrine et que la doctrine est capitale dans l'Église. Le cardinal Béat, qui avait présenté la liberté religieuse, se voit apostrophé par le cardinal Ottaviani, qui avait cet amour de l'Église, pour lui dire, eh bien, je dois affirmer en toute sûreté, disait le cardinal Ottaviani, que je n'admets pas que la commission théologique doive traiter avec les autres commissions, ce qui avait été demandé par le cardinal Béat. En effet, les autres commissions avaient des matières mixtes qu'elles pouvaient voir avec d'autres commissions conciliaires, mais tout ce qui touchait à la doctrine devait être rapporté à la commission théologique. Or, stigmatise bien le cardinal Ottaviani, or si maintenant, à ce sujet-là, liberté, tolérance religieuse, nous avons des problèmes, c'est parce que le secrétariat n'a pas voulu présenter à la commission théologique son schéma. Et quels sont les problèmes ? Ce sont des problèmes de doctrine, des problèmes fondamentaux. Je crois que ça montre bien quelle sera la lutte contre les schémas de la commission théologique. Si vous voulez, on peut très bien résumer ce que nous allons essayer de voir par cette parole de Saint Pidis dans Pascendi, qui disait que c'est à la racine même la foi. La foi que les modernistes ont mis la cognée. Puis cette racine d'immortelle vie, une fois tranchée, il se donne de faire circuler le virus partout l'arbre. Nulle partie de la foi catholique reste à l'abri de leurs mains. Nul qu'il ne fasse tout pour corrompre. Alors nous allons essayer de schématiser les différents problèmes, les différentes questions théologiques de manière synthétique. Nous allons tout d'abord voir la question de l'Église, la nature de l'Église, pour ensuite voir l'épiscopat, et enfin voir ce qui était la mission de l'Église à travers l'épiscopat, l'enseignement de la foi, qui était capital, pour montrer comment justement ce petit groupe, ce petit noyau moderniste, néo-moderniste, a réussi à subvertir de manière totale, déjà, ici dans les discussions préparatoires, la doctrine catholique. Tout d'abord, le schéma De Ecclesia. Très intéressant, puisque c'est un schéma capital. L'identité entre l'Église catholique et le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, la nécessité pour le salut d'être membre de l'Église, la conception de l'épiscopat dans son lien au successeur de Pierre et vicaire de Jésus-Christ, la tolérance religieuse ou encore la doctrine catholique de l'œcuménisme, on le pense bien, étaient autant de proclamations doctrinales claires et précises dont l'Église avait impérieusement besoin pour extirper les erreurs dont le modernisme l'infestait en sous-main. Et je crois que pour résumer, avec quelques autres termes, ce qui s'est passé dans ces discussions sur le De Ecclesia, il y a une parole rapportée par Étienne Fouilloux qui nous dit ce qui s'est passé lors de la dernière réunion entre les observateurs non catholiques et le secrétariat, le 3 décembre 62. Il synthétise bien les questions fondamentales. Voici ce que l'on disait à cette dernière séance. Edmund Schlink constate que le schéma ne tient aucun compte des travaux ecclésiologiques récents au sein du catholicisme. Puis il résume les critiques en se déclarant insatisfait sur les rapports Christ-Église, pape-évêque, clerc-laïque, Église-État. Tous les points importants sont ainsi posés, et les théologiens présents y trouvent d'autant moins à redire qu'il partage nombre de ses reproches envers le texte de la commission théologique, et que certains d'entre eux ont même contribué au texte alternatif destiné à le remplacer. Tout est dit. Et nous allons le voir de manière très, très vivante dans ces discussions, dans ces débats préconciliaires. Alors, eh bien, qu'était-il dit dans le schéma des Ecclésias ? Il y a en particulier le 7e article qui déclarait de manière très claire et splendide ce que le Saint-Synode, ce que l'on attendait du Saint-Synode Vatican II, et non pas ce qui a été fait ensuite. Le Saint-Synode enseigne et professe solennellement qu'il n'y a qu'une seule véritable Église de Jésus-Christ, celle que nous célébrons comme une, sainte, catholique et apostolique dans le symbole, que le Sauveur s'est acquise sur la croix, qu'il s'est uni comme le corps à sa tête, comme l'épouse à son époux, et que, ressuscité, il a confié au gouvernement de Saint-Pierre et de ses successeurs, Église qui seule porte le nom d'Église catholique romaine. Et alors le cardinal Ottaviani va expliquer quels étaient les principes qui ont guidé la commission théologique dans la rédaction de ce schéma. Le premier principe, c'est que le Christ a voulu que le salut de tout homme se réalise par l'union de tout homme à sa propre personne théandrique, donc Dieu fait homme. Mais il a voulu également que cela se réalise uniquement dans un organisme social qu'il a appelé son Église. C'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'il n'y a aucune distinction réelle entre l'Église catholique romaine visible et le corps mystique du Christ qui est l'Église. L'Église visible et le corps mystique du Christ sont une seule et même réalité considérée sous différents aspects. Alors c'est là que nous voyons entrer en scène ce noyau. Le premier à prendre la parole sera le cardinal Liénard. Il va le faire de manière très diplomatique, mais qui montre bien comment les modernistes, les néo-néo-modernistes, avaient bien compris que le schéma sur l'Église était essentiel pour la subversion qu'ils avaient entreprise de mener. La définition de la nature de l'Église, dit-il, est la plus éminente des questions à traiter par le Concile. Il est de la plus grande importance pour nous autres, pères du Concile, qui en avons reçu du Saint-Père la charge, de présenter l'Église au monde dans sa vérité et sa pureté, telle que le Christ l'a voulu et l'a fondée. C'est là également une question de la plus haute importance pour les frères chrétiens séparés, qui, conscients des maux engendrés par la division, aspirent à la restauration de l'unité. Ça paraît intéressant comme réflexion, et pourtant, la phrase qui suit est « Eh bien, pour cette raison, je déclare humblement que ce schéma ne me plaît pas. » Il va le montrer. Il va même dire ceci, c'est que nous ne pouvons pas confesser solennellement, comme le texte le propose justement à l'article 7, que l'Église romaine et le corps mystique sont la même réalité. Comme si le corps mystique était entièrement inclus dans les limites de l'Église romaine. Et alors il va jouer, on ne sait pas trop quel rôle, en faisant comme si le cardinal Ottaviani, dans sa présentation, avait voulu limiter l'Église militante, ou plutôt l'Église, le corps mystique de l'Église, à l'Église militante. Et il va reprocher, en quelque sorte, au cardinal Ottaviani d'avoir oublié que l'Église, c'est aussi l'Église du purgatoire, l'Église souffrante. C'est aussi l'Église glorieuse au ciel. Bien sûr, ça n'est qu'un leurre pour avancer la raison qu'il va donner un petit peu plus bas. Que dirais-je, poursuit-il, des chrétiens séparés, qui ont été ensevelis avec le Christ par un baptême valide, afin qu'en lui, ils revivent à la vie surnaturelle et demeurent hantés en lui. Je souffre. Je souffre que ceux qui sont éloignés de l'Église catholique romaine ne puissent jouir avec nous de tous les dons mystiques du Christ, quoiqu'ils ne soient pas incorporés à l'Église catholique. C'est pourquoi je demande vivement de supprimer cet article 7 et de refondre tout le chapitre de la Constitution. Tout simplement. Le cardinal Béat va prendre la suite. Et c'est intéressant de voir jusqu'où il va. Voici son intervention. L'Église catholique comme moyen de salut n'est pas de nécessité absolue de salut, en ce sens que Dieu, dans sa bienveillance et dans sa sagesse, n'a pas voulu imposer aux hommes un joug injuste d'embrasser in re une institution de salut dont ils n'ont jamais entendu parler, et que l'Église catholique ne l'impose pas. Il leur est simplement demandé cette disposition droite par laquelle ils accepteraient l'Église s'ils la connaissaient et la reconnaissaient comme moyen de salut. Il mélange la vérité et l'erreur, bien évidemment. Et alors, le cardinal Ottaviani, c'est là qu'on voit que les débats de la commission préconciliaire n'ont pas été toujours très paisibles, mais il avait le zèle pour l'Église. Il va le reprendre, ses confrères, dans le cardinalat. Je dois vraiment dire que l'intervention du cardinal Liénard ne me plaît pas. Qui disait peut-être par faux supposé que nous identifions le corps mystique du Christ avec l'Église militante. Et il poursuit, au sujet de l'intervention du cardinal Béat, « De ce qu'a dit le cardinal Béat, tout n'est pas à prendre en considération, car certaines assertions sont particulièrement dangereuses. Je comprends bien son zèle, puisque lui est confié le secrétariat pour les acatholiques, et aujourd'hui il fera certainement en sorte que le concile leur laisse une porte grande ouverte, mais il ne faut pas exagérer. C'est dangereux de dire cela. L'Église catholique et le corps mystique sont identiques. Voilà, je crois que cela suffit à montrer ce qu'a pu être ce débat sur l'Église, la nature elle-même de l'Église, mais bien évidemment, pour les contempteurs de l'ordre chrétien, il fallait en arriver à la question de l'épiscopat. Si la nature de l'Église était à changer pour avoir une nouvelle Église, il fallait évidemment essayer de subvertir la notion catholique de l'épiscopat et surtout le lien des évêques avec le souverain pontife. Et là, il faut avouer qu'ils l'ont fait de manière très subtile. Essayons d'abord de voir ce que le cardinal Ottaviani avait dit dans sa présentation de cette constitution. Il avait bien évidemment fait mention des vœux de tous les évêques, comme on l'a entendu tout à l'heure dans la conférence, qui demandait une revalorisation de l'épiscopat. Mais il s'empressait de préciser que la commission doctrinale avait toujours eu devant les yeux comme principe le pontife romain, non pas comme membre du collège épiscopal, mais comme vicaire du Christ, ayant vraiment et proprement le pouvoir épiscopal sur toute l'Église et donc sur tous les pasteurs et les fidèles. En conséquence, celui qui diminue le pouvoir des évêques diminue également le pouvoir du vicaire du Christ, le pouvoir épiscopal universel du pape. Et celui qui amoindrit le pouvoir du pape lèse les évêques. Puis ensuite, dans sa présentation, le cardinal Ottaviani montre bien que est bien définie et spécifiée la différence qui existe entre la juridiction et la sollicitude. Les évêques ont une juridiction propre sur leur diocèse, ils ont une sollicitude sur l'Église entière. Mais bien évidemment, c'est ce que ce noyau, toujours les mêmes, cardinal Béat, Frings, Döpfner, Alfrink, König, etc., ne pouvaient pas supporter, puisqu'ils voulaient faire tout en sorte pour arriver à la collégialité épiscopale. Alors la réaction va être très vive. Le cardinal Döpfner avait même pris les devants dans la discussion sur le chapitre de la nature de l'Église, en disant que dans la structure de l'Église, il est certain que le Christ a édifié son Église sur Pierre et ses successeurs. C'est vrai. Mais en voulant signifier par là que cela continue maintenant, c'est-à-dire qu'il faut dire que le collège épiscopal est le successeur en tant que collège des apôtres. Le cardinal Frings va poursuivre en disant que ce n'est pas de manière seulement extraordinaire, mais ordinaire que ce collège des évêques s'acquitte de sa charge. Et peut-être la réponse la plus virulente a-t-elle été faite par le patriarche Maximos IV, qui a traité la commission théologique, le cardinal Ottaviani, la doctrine traditionnelle d'extrémiste. Il va même jusqu'à dire ceci, que c'est le pape Pie XII qui a exigé pour la première fois qu'aucun évêque de son Église, de notre Église, disait-il, puisse être proclamé sans confirmation papale. Le pape Pie XII appliquait sans doute l'opinion, dont se prévaut maintenant le schéma de la commission théologique. Il parlait ensuite des partisans de cette opinion extrémiste. Les partisans, disait-il un peu plus loin, de l'opinion que nous combattons recourent à une autre déduction. Vous voyez que ce schéma sur l'Église a donc était très animé, et je pense qu'on peut résumer avec l'abbé du Lac tout ce qui en était l'enjeu. C'est dans son ouvrage sur la collégialité épiscopale, il disait que jamais ce terme de collégialité épiscopale, de gouvernement collégial, n'a été employé par le magistère, ni par un enseignement théologique vraiment commun. Non seulement le terme est inconnu, mais également la chose que le terme pourrait proprement désigner. Quelle chose ? Le partage forcé du pouvoir souverain entre plusieurs. Et alors, il est très intéressant de voir toutes les remarques que Monseigneur a pu faire au cours de ces débats, non seulement dans le débat sur la nature de l'Église, sur l'épiscopat, mais également et en particulier sur la liturgie, parce qu'il voyait bien le danger de l'autonomie laissée aux évêques de ce collège épiscopal qui allait prendre tout son pouvoir dans les conférences épiscopales. Et à de nombreuses reprises, Monseigneur s'insurge contre cette liberté accordée aux conférences épiscopales. Voici ce qu'il disait. « L'autorité et le magistère des évêques aujourd'hui est en grand danger. Pourquoi ? Parce que tout est déterminé de l'extérieur. Et il y a un grave péril pour le Saint-Siège de voir se reformer des épiscopats nationaux. » Il le dira plus tard dans la liturgie. Si l'on admet le principe selon lequel les conférences épiscopales peuvent porter des décrets sur la liturgie et les rites sacramentels, même avec le consentement du Saint-Siège, on reviendra à des liturgies et à des rites nationaux. Et tous les efforts fournis depuis 2 siècles pour unifier la liturgie seront réduits à néant. Pour des raisons pastorales, il est donc très dangereux de laisser les conférences épiscopales faire ces changements. Et les conférences épiscopales n'ont cette compétence ni selon le droit, ni selon leur nature. Nous avons essayé de voir très brièvement cette question de l'Église, de l'épiscopat. Bien évidemment, si on essaie de manière plus ou moins logique de suivre la subversion de ce petit noyau, il faut bien comprendre que ce qui était déclaré dans les schémas de la commission préparatoire, c'était que la mission de l'Église, la mission des évêques, était de proclamer la foi. Eh bien, c'est à ce sujet-là, donc, 2 autres décrets, schémas de la commission théologique que nous allons arriver, en particulier celui sur la garde fidèle du dépôt, le De Deposito Fidei Pure Custodiendo. Ce schéma est très intéressant parce qu'il montre bien comment la commission théologique a tenu compte des votats de tous les évêques. On a parlé tout à l'heure de toutes ces erreurs. Eh bien, toutes ces erreurs sont serties dans ce schéma. Voici brièvement résumé toutes les erreurs qui sont condamnées dans le schéma de la garde du dépôt. L'agnosticisme, le faux existentialisme, le matérialisme athée, l'évolutionnisme matérialiste et panthéiste, le relativisme doctrinal qui dénie au concept la capacité de signifier vraiment, quoique imparfaitement, les réalités divines, le néopélagianisme et le naturalisme. Veuillez m'excuser. Le spiritisme, la réincarnation, le faux humanisme et les erreurs contraires au monogénisme. Bien évidemment, ce rappel de la nécessité d'une philosophie réaliste, la philosophie scolastique et de la théologie scolastique ne pouvait pas les laisser indifférents. Tous les contempteurs de cette théologie, on entend le cardinal Alfrings s'exprimer de cette manière dans les débats. « Je ne suis pas philosophe. » On peut le croire, mais simple exégète, bibliste, et en tant que tel, je sais que dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il est fait usage d'un autre mode de pensée, disons d'une autre philosophie que la philosophie pérenne. Pas plus saint Paul dans ses épîtres que saint Jean dans son évangile, où le Seigneur lui-même n'était pénétré de cette philosophie. Mépris de la philosophie scolastique. Le cardinal Béat va dire lui-même que la manière de parler ne doit pas être scolastique, mais telle qu'elle puisse être comprise par tous les hommes, même d'autres cultures. Et alors, c'est ici que nous avons cette remarque délicieuse d'un simple petit archevêque asiatique qui malheureusement plus tard fera parler de lui, mais pas toujours en bien, Monseigneur Ngo Dinh-Tuc, qui va faire à tous ces doctes contempteurs de la théologie de saint Thomas d'Aquin une leçon de réalisme. Il va prendre la parole et dire qu'il me semble, à moi, simple asiatique, que le système appelé thomiste de manière inexacte est bien plus le système commun de l'intelligence qui convient donc aussi bien aux Asiatiques qu'aux Africains, si je ne me trompe. Voilà pour cette question du dépôt de la foi, de la garde du dépôt de la foi. Je vois que le temps passe et donc il faut essayer d'avancer un petit peu. Bien évidemment, dans ces schémas de la commission théologique, il en est un qui revêt une importance fondamentale dont Monseigneur Espadafora a parlé hier, c'est le De Fontibus Revelationis. Je ne donnerai ici que les remarques qui ont été faites pour montrer la haine qu'avaient les ennemis de l'ordre traditionnel. C'est ce qui est dit par le père Congar au sujet de ce schéma. Il est vrai que les schémas préparatoires sont superficiels, scolaires, trop philosophiques, trop négatifs. C'est comme s'il n'y avait pas eu 40 ans de travail biblique. Un autre auteur dont j'ai oublié le nom a parlé de 50 ans. Si on fait le décompte, on arrive à Saint-Pédis et à ses condamnations. Monseigneur Charu complétait cette diatribe en disant que les deux premiers schémas doivent être réécrits complètement. C'était justement le schéma De Fontibus. Il ne présente pas un exposé suffisamment positif, pastoral, biblique et œcuménique de la révélation chrétienne. Et il préconisait même comme remède au modernisme, manière un peu effrontée, d'encourager la recherche scientifique à tous les niveaux dans la fidélité à l'égard de l'Église, s'empressait-il de préciser. On sait ce que ça a donné. Arrivons-en maintenant à ce débat sur la liturgie. C'est un débat qui a été grave, parce que justement, le schéma sur la liturgie est l'antithèse, si l'on peut dire, tant dans son fond que dans sa forme, des schémas de la commission théologique. Et du reste, comme on l'a dit tout au début, c'est le seul survivant de tous les schémas, préparatoires du Concile. Pourquoi ? Parce que les autres présentaient de manière scolastique, négative et triomphaliste la doctrine catholique. Alors bien évidemment, tous les défenseurs de la doctrine traditionnelle se sont levés pour montrer toutes les faiblesses de ce schéma. Et une des premières de ces faiblesses consiste justement dans le fait que rien n'était défini dans le schéma sur la liturgie. La liturgie elle-même, alors qu'il y a un chapitre qui s'intitule « La nature de la liturgie », n'est pas défini. On ne parle pas de la liturgie comme culte rendu à Dieu. Voici ce qui est dit, je synthétise les quelques remarques qui sont faites. Le texte ne donne aucune définition véritable de la liturgie. Il était dépourvu de tout principe, de toute norme, pour établir à partir de quel moment un progrès était légitime, puisque progrès était le leitmotiv des réformes introduites par le schéma. Et même le cardinal Ottaviani, après avoir entendu constamment ces termes de rénover, de transformer, d'instituer à nouveau, le cardinal Ottaviani ne va pas manquer de déplorer vivement ce schéma. Il le dira « non placet », il ne me plaît pas. Une telle quantité de changements semble plutôt une révolution, « revolutionaria reformatio », propre à engendrer le scandale des fidèles. Il va parler des liturgistes et des historicistes, ce qui ne devait certainement pas plaire à ses confrères, puisque c'était une référence directe à Humani Generis et aux condamnations qui avaient été faites. Il montrera spécialement ce qui ne lui plaît pas, c'est tout d'abord la communion sous les deux espèces, la multiplication des occasions de concélébrer, et la nouvelle blessure infligée à la langue latine, langue de l'unité de l'Église. Le cardinal Brown prendra sa défense, continuera dans cette dans ses remarques pour montrer les faiblesses, non seulement les faiblesses, mais les erreurs contenues dans ce schéma, pour parler de novatores. Les novateurs ont oublié que la messe s'accomplit premièrement par l'exercice de l'acte d'oblation ou l'acte du sacrifice. Et une des remarques les plus délicieuses de ce débat sur le schéma de la liturgie est celle du cardinal Traglia, qui a eu une parole significative, non placet. Il disait qu'à son humble avis, le schéma devait être réformé selon les principes mêmes qu'il utilisait. En effet, et il citait là le schéma, l'ordo missae actuel doit être gardé. Puis à la même page, quelques parties sont cependant à modifier quelque peu. Non nulla, aliquatenus emendanda. On ne comprend pas, poursuivait-il, puisqu'il apparaît clairement à notre discussion qu'on propose la modification de nombreuses parties, plurima, et qui plus est, un changement radical, funditus. Monseigneur avait donc raison. Ce schéma sur la liturgie voulait aboutir à des liturgies nationales, à des rites nationaux. Et cela est d'autant plus singulier, en particulier au sujet du latin, que le pape Jean XXIII, un mois avant ces débats sur le schéma de la liturgie, avait promulgué la constitution apostolique Veterum Sapientia pour la garde du latin, pour l'amour du latin, en disant même ces paroles que l'Église qui groupe en son sein toutes les nations, qui est destinée à vivre jusqu'à la consommation des siècles, a besoin par sa nature même d'une langue universelle, définitivement fixée, et qui ne soit pas une langue vulgaire. Un mois plus tard, tout était détruit par ce schéma de la liturgie. Et on peut dire que, pour synthétiser ce qui s'est passé avec ce schéma de la liturgie, fer de lance de la révolution, au sein même de la commission centrale préparatoire, eh bien c'est le Quai d'Orsay qui le dira. Il le sentira bien. Le Concile constituera une étape vers l'effacement de la latinité dans le monde, un nouvel aspect du déclin relatif de l'Occident. Désormais décolonisée, l'Église commencera à se désoccidentaliser et indirectement du moins, il facilitera l'œuvre œcuménique, puisque sera atténué le monolithisme latin et que l'Église apparaîtra plus ouverte. Eh bien, c'est dans cet esprit que nous abordons la fin de la préparation du Concile et toute cette période entre le 12 mai 62 et le début du Concile, 11 octobre 62. Cette période va être une période, on pourrait la qualifier de, la fièvre de l'avant-Concile, parce que nous allons voir trois fronts de manière successive qui vont comploter, on peut le dire, conspirer contre les schémas doctrinaux. Les schémas doctrinaux sont vraiment détestés par ce groupe de pression, on peut le dire. Tout d'abord, il y a le cardinal Suenens, qui avait même pris les devants, puisqu'entre la 5e congrégation générale et la 6e, la dernière congrégation générale de la commission centrale, il va, on peut le dire, faire le siège de Jean XXIII. Il va lui montrer le nombre abusif de schémas préparés en vue de la discussion conciliaire. Alors que va lui demander le pape? Il va lui demander de déblayer le terrain et de lui faire un projet à partir de ces schémas, des schémas préparés. Après l'étude de ces documents, il adresse au pape une note préliminaire qui vise à élaguer et à situer le concile dans une vraie perspective pastorale. Eh bien, cette note du cardinal Suenens, elle entrera parfaitement dans le plan, dans l'optique de Jean XXIII. Elle sera communiquée à tous les autres membres de ce petit groupe. Montigny, le cardinal Montigny, Liénard. Le pape lui-même désignera quelques noms. Le cardinal Döpfner, le cardinal Lercaro, à nouveau le cardinal Montigny, qui vont se rallier à ce plan et qui vont diffuser ce schéma, si on peut dire, Suenens, qui va donc préparer le rejet de ceux préparés par la commission théologique. Monseigneur Villot confiera même à Henri Denis le 20 juin que ce plan Suenens est extrêmement important. Voici ce qu'il dit à l'instigation des cardinaux de Malines, donc le cardinal Suenens, et de Munich, le cardinal Döpfner, qui en ont parlé récemment au pape. Il pourrait y avoir dans les mois qui précèdent le concile un courant assez fort pour la remise en question de cette problématique un peu étroite. Là encore, les débuts du concile risquent d'être assez chargés. Un peu plus tard, nous voyons l'apparition d'un autre front pour démolir ces schémas préparatoires. C'est le père Chenu qui se désole à la lecture des schémas de la commission dogmatique, de la commission Ottaviani, comme il la nomme avec mépris. Il déplore que les questions soient posées et résolues, à peu près comme elles l'auraient été au premier concile du Vatican. Dans son désir de mobiliser les théologiens contre les schémas proposés, eh bien, Chenu va s'adresser à Karl Rahner. Et c'est en écrivant que l'idée va lui jaillir, cette idée de déclaration au monde. Déclaration au monde pour dire au monde ce qu'est l'Église. Quelle sera la réponse qu'il recevra de Rahner, qui va être relayé par un autre individu, Hans Küng, bien connu. Quelle sera la réponse? Eh bien, elle sera tout simplement de dire qu'aussi dans l'ambiance allemande, c'est concrétiser une stratégie du refus des schémas doctrinaux. Alors je crois qu'il est intéressant de lire quelques passages de cette lettre du père Chenu. Appelé par la confiance d'un évêque à l'assister comme théologien dans les travaux du concile, je viens de prendre quelques connaissances des schémas préparatoires. Les deux premières constitutions émanant de la commission théologique ont provoqué en moi affliction et regret. Je me permets de vous faire part de cette émotion. L'ensemble de ces textes est inspiré et rédigé dans une perspective strictement intellectualiste, au sens péjoratif du mot, s'empresse-t-il de dire. C'est-à-dire qu'ils font prévaloir sur la parole de Dieu les analyses et les critiques scolastiques. La proclamation de la bonne nouvelle au monde, qui doit être première et manifeste, reste implicite. De ce fait prévaut une ligne rigide, d'énoncé abstrait, théorique, alors que le concile a suscité l'espérance d'une considération pastorale à la mesure des problèmes posés par l'évangélisation d'un monde nouveau. Ainsi, ces textes condamnent des opinions théologiques. C'est intéressant comment est-ce qu'ils subvertissent les choses. Des opinions théologiques, des erreurs intra-théologiques, comme si aucune d'entre elles n'avait autrefois été condamnée. Et il met entre parenthèses la question du monogénisme, la question du péché originel. Triste et hargneuse mesquinerie de l'esprit, le concile devient une opération de police intellectuelle dans les murs clos de l'école. Mépris, mépris de l'Église, mépris de la tradition. Et chose curieuse, cette lettre du père Chenu, qui lui-même avait été objet de ces condamnations, il le savait bien, eh bien, cette lettre du père Chenu, eh bien, est le triomphe de ses opinions. Et quelqu'un le lui avait dit, le cardinal Suard, en 42, 20 ans avant le concile, il lui avait dit, petit père, après sa condamnation, ne vous troublez pas, dans 20 ans, tout le monde parlera comme vous. C'est la deuxième courant contre les schémas doctrinaux. Le troisième, c'est la fronde, on peut le dire, de Hollande, avec Mgr Beckers, qui va rencontrer Mgr Tarcisius von Fallenberg. Et tous les deux étaient d'avis qu'il fallait d'urgence mener une action de manière à modifier fondamentalement les schémas ou à les rejeter complètement. À qui feront-ils appel? Au professeur Schilbeck, qui va écrire un commentaire d'une soixantaine de pages, qui va être diffusée à 2600 exemplaires avant le concile. Ce qui fera du reste la fureur de cardinal Ottaviani, qui aura connaissance de ces documents. Documents qui ont rompu bien évidemment le secret des documents conciliaires et qui vont être distribués à une quantité de pères de conciliaires pour détruire de fond en comble tout ce qui avait été demandé par la commission doctrinale. Nous arrivons maintenant à la veille du concile. Nous sommes avec le père Congar. Ça n'est pas une compagnie tout à fait agréable, mais il est dit de lui qu'il se trouve dans l'avion à Rome le 9 octobre et qu'il va chanter deux antiennes qui n'ont rien d'antienne grégorienne, C'est une autre chanson. Il va chanter à tous les évêques qui sont dans le même avion, deux antiennes. Le message au monde, donc la reprise de cette lettre du père Chenu, et la révision des schémas doctrinaux. Voilà comment ce que nous abordons le concile. Alors le concile, eh bien, et là s'arrêteront les considérations sur les schémas préparatoires, puisque ce sera la fin des schémas préparatoires, le concile va débuter le 11 octobre. Le 13 octobre 62 sera la journée peut-être la plus tragique du concile, puisque ce 13 octobre, une session qui durera 50 minutes, messe comprise, verra le rejet, ou pas directement disons le rejet, mais la refonte totale des commissions qui ont préparé le concile. C'est l'incident fameux du cardinal Liénard qui avait été abordé du reste quelques jours auparavant par le cardinal Garonne, et qui se lèvera pour demander au cardinal Tisserand, qui était président de cette session, pour lui demander de prendre la parole. Ça n'était pas dans l'ordre du jour. Alors que dira le cardinal Liénard ? Eh bien, puisque je ne peux pas prendre la parole, je vais la prendre quand même. Il va le dire peut-être en des termes polis, mais qu'il fallait, comme c'était une assemblée très importante, que nous prenions le temps de nous connaître pour désigner en parfaite connaissance de cause quels devraient être les pères des différentes commissions conciliaires. À ce moment-là, cette intervention qui a été reprise par le cardinal Frings sera la fin des schémas préparatoires, puisque d'une seule voix ou d'un seul applaudissement, tous les évêques, peut-être poussés par le phénomène de foule, vont applaudir à l'intervention du cardinal Liénard et du cardinal Frings. Et dès ce moment-là, tout sera disparu. On peut dire que le concile Vatican II, qui était préparé par les schémas préparatoires, par tous ces travaux, 2 ans de travaux intenses, s'arrête là. Quelques auteurs ont même dit que c'était l'avortement du concile. Le vrai concile est terminé à ce moment-là. Ce qui débute à partir du 13 octobre et à partir de cette fièvre pour l'instauration des listes de l'Alliance européenne dans les commissions conciliaires, ce qui débute, c'est un concile de l'opinion. Ce n'est pas le concile Vatican II, le vrai. C'est un concile de l'opinion. C'est un concile, on pourrait presque le dire, démocratique, improvisé. Improvisé, puisque aucun des schémas ne sera repris. C'est un nouveau travail pour une nouvelle Église, une Église conciliaire. À la fin du reste de ces 50 minutes, un évêque hollandais lança un prêtre de ses amis en sortant « C'est notre première victoire ». On voit bien par là ce qui était voulu. Alors, essayons de conclure ce bref survol des schémas préparatoires. Essayons de conclure avec une remarque qui a été faite par Mgr Lefebvre au cours des discussions préparatoires et qui montre ce qu'aurait dû être le concile et ce qui n'a pas pu être à cause de ces 50 minutes, messe comprise, comme le rapporte le père Wildgen dans son ouvrage « Le Rhin se jette dans le Tibre ». Monseigneur avait fait une remarque, une intervention assez longue et très remarquée qui avait fait pratiquement l'unanimité des pères préconciliaires. Voici ce qu'il disait. Comme le firent tous les conciles, il est certain que les canons, donc des condamnations, sont très nécessaires pour repousser de manière particulière et quasi scientifique les erreurs actuelles. Il apparaît donc absolument nécessaire de garder les schémas qui nous ont été proposés, puisque ces schémas, on l'a vu, condamnaient des erreurs, en particulier le schéma De Depositum Fidei Pure Custodiendo. Aussi proposerai-je humblement cette solution. Et là, la solution que présente Monseigneur était à la fois très, on pourrait presque dire très diplomatique et très, très traditionnelle, bien évidemment. Diplomatique en ce qu'il va reprendre un peu toutes les propositions faites par l'un côté comme de l'autre, même des propositions de cardinaux comme Döpfner, etc. Il les reprendra, mais pour les synthétiser dans une vue traditionnelle. Comme ce fut la tradition sainte des conciles de formuler des professions de foi contre les erreurs en vigueur, comme le fit très sagement le Concile de Trente, composant en outre d'une profession de foi une admirable synthèse de la foi catholique dans son catéchisme, source et exemplaire de tous nos catéchismes, le Concile Vatican II ne pourrait-il pas produire un opuscule exposant brièvement la synthèse de toute l'économie chrétienne et dans laquelle l'origine du monde et de l'homme serait exposée, repoussant ainsi, de fait, le polygénisme, selon l'exposé si clair de l'éminent cardinal Ruffini, dans lequel soit démontrée l'intime connexion entre les principes de la philosophie pérenne et ceux de la foi catholique, comme l'a si bien dit l'éminent cardinal Agadjanan, dans lequel apparaîtrait lumineusement qu'aucun salut n'est possible en dehors de Jésus-Christ notre Sauveur et de son corps mystique qu'est l'Église, ce en quoi serait clairement démontré le christocentrisme, comme le désirait le cardinal Döpfner, mais il ne le désirait pas de cette manière. Dans lequel, enfin, l'eschatologie chrétienne avec les fins dernières de l'homme soit exposée selon l'esprit de plusieurs membres de cette commission. De cette façon, les premiers documents, à savoir les canons, les condamnations, conserveraient toute leur valeur, très utile pour la garde du dépôt de la foi. Et l'autre document, le catéchisme, sans être proprement scientifique, serait une source très utile dans l'apostolat, les prédications, les conférences, et pourrait aisément être traduit en toutes les langues. De cette façon, la lumière de la foi serait portée aux fidèles et aux infidèles qui attendent aujourd'hui l'exposition lumineuse de toute l'économie chrétienne contre les affreux systèmes du matérialisme, du laïcisme, du panthéisme. Il parlait un peu plus haut même de l'évolution du matérialisme chrétien, disons, prôné par l'évolutionnisme de Teilhard, et contre la fallacieuse opposition entre la science et la foi. Il est à remarquer que le cardinal Ottaviani avait été très enthousiaste à cette déclaration de Monseigneur. C'est lui, le cardinal Ottaviani, qui avait proposé à tous les pères préconciliaires d'accepter cette proposition. Il disait même que cette proposition, qui à la fois synthétisait les canons, condamnation du Concile, et l'exposé plus positif de la doctrine par le catéchisme, pourrait comme parachever les travaux du Concile. Cela a été fini en 50 minutes. Et je crois qu'une des remarques les plus percutantes pour montrer comment ils ont voulu le faire est celle du père Congar. Voici ce qu'il dit. Le Concile a liquidé ce que j'appellerais l'inconditionnalité du système. J'entends par système tout un ensemble très cohérent d'idées communiquées par l'enseignement des universités romaines, codifiées par le droit canon, protégées avec une surveillance étroite et assez efficace sous Pie XII, avec compte-rendu, rappel à l'ordre, soumission des écrits à des censures romaines, etc. Par le fait du concile, il a été désintégré. C'est fort comme remarque. Eh bien, je crois qu'on peut dire que cette remarque nous montre, ou peut-être nous explique ce qui a été également suggéré, dit dans les autres interventions, c'est que le retour à l'esprit du Concile, qui est prôné tant par les novateurs les plus extrêmes que par les novateurs modérés, cardinal Ratzinger, et ceux qui vont beaucoup plus loin, eh bien le retour à l'esprit du Concile, c'est le retour à un même esprit. Et si l'on peut dire que les novateurs modérés comme le cardinal Ratzinger, ainsi que cela a été dit, ou ceux qui sont les plus modernistes, les plus progressistes, prônent, ces deux réalités, ces deux mouvements sont en fait deux extrêmes qui sont dans un même genre, qu'on peut vraiment définir parfaitement avec le terme du cardinal Ottaviani, « revolutionaria reformatio ». Alors que les tenants de la doctrine plus ou moins catholique, et plutôt moins que plus aujourd'hui, comme le cardinal Ratzinger, veuille revenir à l'esprit, le vrai concile, eh bien, montre qu'ils n'ont pas vraiment compris ou pas compris du tout que l'essentiel du concile, on pourrait dire dans son essence, est révolutionnaire. Et c'est tout ce qu'il a pu produire. Si l'on veut revenir au véritable esprit du Concile, il faut revenir de manière urgente, non pas au Concile Vatican II, mais au schéma préparatoire. Alors espérons que peut-être un jour puissent être produits ces, en particulier ces schémas de la commission doctrinale pour qu'éclate de manière très claire, au grand jour, l'abîme qui sépare cette doctrine de ce qu'est celle qui a été promulguée par les constitutions de Vatican II. Et ainsi, les schémas préparatoires resteront comme une borne milière dans la théologie catholique et dans l'histoire de l'Église. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait essayer de dire de manière très brève et très synthétique de ces schémas. Je vous remercie de votre attention.